musique est un cri qui vient de l'intérieur.
I still have a dream.
Je rêve d'un autre monde.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
On n'a pas que de l'amour. Ça, non.
Tout homme, et à plus forte raison, tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi.
Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre.
And I'm feeling good.
Bonjour à toutes et à tous, Séverine au micro, je suis ravie de vous retrouver sur les ondes de RQC. Il n'y a pas péril en la demi-heure, une demi-heure pour aborder avec des invités des sujets de société, des sujets d'actualité. C'est tous les troisièmes vendredis du mois entre 13h et 13h30 sur RQC 95FM. C'est l'histoire de Martin et Simon. Ils sont nouveaux à l'école, ils se lient rapidement d'amitié et se serrent les coudes face à l'inconnu. Puis, peu à peu, l'un devient populaire tandis que l'autre est tombé dans la boue. Leurs chemins se séparent. Le harcèlement scolaire, c'est le thème que parcourt avec délicatesse et émotion Simon Lagadouille, une pièce présentée par la compagnie Théâtre du Prisme et programmée par le Centre culturel Moucronois le samedi 20 septembre à 10h. Une thématique que nous allons aborder avec un professionnel de ce fléau, Laurent Kestelot est psychologue, directeur du centre PMS spécialisé Moucron Commine et membre de la plateforme Cash. Il est l'invité de « Il n'y a pas péril en la demi-heure ». Insultes, intimidations, moqueries, humiliations, raquettes, coups ne sont hélas pas des comportements rares entre les murs de l'école. Pour identifier un harcèlement, il faut avant tout définir clairement ce phénomène. Comment définiriez-vous justement le harcèlement ?
Alors pour cela, il faut pouvoir détecter au moins quatre caractéristiques propres au harcèlement. Dans un premier temps, il s'agit d'un rapport de force injuste, donc soit quelqu'un qui est plus grand, plus fort face à quelqu'un de plus petit et plus faible, ou alors ils sont plus nombreux.
D'accord, ça, c'est un rapport de domination, on va dire.
Tout à fait. La deuxième caractéristique, ça doit se répéter. Ça ne peut pas être un fait isolé. Donc ça se répète à plusieurs reprises sur les cours de récréation, dans les vestiaires, pendant les intercours. Mais c'est forcément quelque chose qui se répète. La troisième caractéristique, il s'agit tout simplement d'une intention de nuire de la part des auteurs. Donc ils savent pertinemment que ça blesse la victime.
C'est ça.
Donc il y a vraiment une volonté, une intention en tout cas de blesser, de nuire la victime. Et la quatrième et dernière caractéristique, c'est l'isolement de la victime. La victime se sent de plus en plus seule.
Le harcèlement peut prendre différentes formes, qu'elles soient verbales, psychologiques ou physiques. Quelles sont les formes de harcèlement le plus fréquemment rencontrées ?
Le plus fréquemment, je ne saurais pas vraiment vous dire s'il y en a une qui apparaît plus facilement que d'autres. Moi, à travers ma pratique professionnelle, je retrouve quatre formes. Le harcèlement moral, à travers des insultes, des menaces, la propagation de fausses rumeurs. Le harcèlement physique, à travers des coups, pas forcément besoin de saigner ou d'avoir des hématomes. Oui. C'est des coups portés, ça peut être tirer les cheveux, ça peut être des bousculades. Là, maintenant, avec les nouvelles technologies, on retrouve également le cyberharcèlement.
On y reviendra un peu plus plus tard.
Mm-hmm. Il y a encore une quatrième forme, à savoir le harcèlement sexuel, mm-hmm. dès l'instant où on touche à la sphère du corps et du sexe.
Entre jeunes également.
Cela peut arriver, effectivement.
Selon une enquête récente, un jeune sur trois en Fédération Wallonie-Bruxelles aurait été impliqué dans une affaire de harcèlement, que ce soit comme victime, témoin ou auteur. Est-ce que ces chiffres vous semblent refléter la réalité de votre terrain ?
Malheureusement, non. J'aurais même tendance à dire que ces chiffres sont biaisés et devraient même être plus importants. Car malheureusement, pour beaucoup de victimes, certaines d'entre elles se taisent. Et donc les chiffres, malheureusement, ne reflètent pas la réalité, ce qui déjà est très, très interpellant, je trouve.
Peut-on parler d'une augmentation de ce phénomène au cours de ces dernières années ? Vous parliez tout à l'heure, évidemment, de l'émergence des réseaux sociaux. Constatez-vous, en tant que responsable d'un centre PMS, une hausse des signalements ?
Alors, j'ai quand même l'impression, effectivement, que c'est très présent dans toutes les écoles. Qu'elle soit ordinaire, spécialisée, primaire, secondaire. Maintenant, à travers, j'ose espérer, la plateforme Cash, qu'il puisse y avoir une diminution, du moins en tout cas une sensibilisation.
Et est-ce que cette hausse de signalement peut être aussi le signe finalement d'une meilleure prise de conscience, d'un signe que la parole se libère quelque part ?
Je l'espère en tout cas. Je l'espère sincèrement.
Pour les experts, j'ai lu, mais vous me donnerez votre point de vue évidemment sur la question, que tant au niveau de la victime que de l'agresseur, il n'existait pas réellement de profil type.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, moi, je remarque quand même en tout cas des points communs, à savoir la victime. Son point commun, en tout cas, celui avec toutes les victimes, c'est qu'elle a toujours une différence par rapport au reste du groupe. C'est une différence qui peut concerner le physique, être plus petit, plus grand, être en surpoids, trop maigre, ça peut être la couleur de peau, la couleur des cheveux, le fait de porter des lunettes ou un appareil dentaire. Ça peut être les vêtements, avoir de la marque, ou au contraire, ne pas avoir de marque. Mais ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas visible. Ça peut être les points scolaires, d'avoir des bons résultats.
Des bons résultats.
Ou au contraire, des mauvais résultats. Si on est doué dans des sports ou pas. Ça peut être aussi le quartier dans lequel on habite. Ça peut être aussi si les parents gagnent beaucoup d'argent ou au contraire, peu d'argent. Ça peut être l'orientation sexuelle, l'orientation religieuse, n'importe quel prétexte du moment qu'elle constitue une différence par rapport au reste du groupe. Ça, c'est concernant la victime. Par contre, j'aimerais attirer votre attention sur les auteurs de harcèlement. Je remarque en tout cas qu'ils ont tous en tout cas un problème, une difficulté. Déjà, pour pouvoir prendre un certain plaisir à nuire à l'autre, il faut déjà, je pense, avoir un problème. Et surtout, ils ont une difficulté, une faiblesse qu'ils cherchent à cacher. Peut-être que ça ne se passe pas bien à la maison. Peut-être qu'eux-mêmes sont victimes de harcèlement dans un autre milieu de vie. Et ils essayent généralement de cacher cette faiblesse à travers la domination de l'autre.
C'est ça, faire le dur pour cacher une faiblesse,
tout
comme
à
vous
fait.
Dites. Peut-on être à la fois harceleur et harcelé, finalement ?
Tout à fait. Tout à fait. Donc nous, quand on intervient, parfois, à travers le travail et le suivi, la guidance que l'on peut mener justement avec un harceleur, un auteur de harcèlement, parfois il s'avère effectivement que lui-même a été harcelé dans le passé ou est encore actuellement harcelé, mais dans un autre milieu de vie que là où il met le harcèlement en place.
Quels sont les signes qui peuvent indiquer qu'un enfant est victime de harcèlement ? Alors, parce qu'il ne va pas forcément l'exprimer.
Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, du moins dans le champ scolaire, puisque c'est là où j'interviens, ce sont généralement des jeunes qui vont s'isoler de plus en plus, qui auront de moins en moins d'amis, qui vont s'exprimer de moins en moins. Les résultats scolaires peuvent baisser aussi. C'est-à-dire que si le harcèlement a lieu justement dans l'école, le jeune est moins concentré sur ce qu'il a à faire, puisqu'il est constamment dans l'interrogation de « est-ce qu'on va me frapper ? Est-ce qu'on va se moquer de moi ?» Ce sont des jeunes donc beaucoup plus repliés sur eux-mêmes, qui n'auront peut-être plus envie d'aller à l'école. Il peut y avoir du décrochage scolaire rapport à ça. Des jeunes qui n'ont une faible estime d'eux-mêmes, plus vraiment confiance en eux. Donc ça, ce sont tous des éléments, en tout cas, qui peuvent permettre d'alerter. Ce sont les premiers signaux, je dirais. D'autres, par contre, peuvent aller plus loin, peuvent se mutiler, se scarifier, commencer à développer des idées sombres, des idées noires, voire même jusqu'à envisager le pire.
Le harcèlement, j'ai l'impression qu'il va de pair avec une dynamique de groupe. Donc il y a la cible d'un côté, le harceleur et aussi les spectateurs.
Tout à fait.
En général, sans spectateur, il n'y a pas d'agresseur. On peut dire ça comme ça.
Alors dans la grande partie des situations de harcèlement, oui, effectivement, il y a toujours un public, rarement constitué de figures d'autorité, bien entendu. Hein, les harceleurs ne font jamais ça face aux adultes ou aux professeurs. Il y a souvent donc effectivement un public avec des spectateurs actifs et des spectateurs passifs. J'aimerais faire le distinguo par rapport à ça. Les spectateurs actifs observent la scène et vont y participer. Peuvent rire, peuvent rajouter une couche,
faire
un petit commentaire. Et nous avons aussi les spectateurs passifs, c'est-à-dire qu'ils observent la scène mais ne s'en mêlent pas du tout. Mais ils ont bien conscience de ce qui est en train de se jouer. Donc ça, ce sont les spectateurs. Maintenant, il y a une forme de harcèlement où là, par contre, on retrouve rarement un public, le harcèlement sexuel.
Sexuel, oui, tout à fait. Que doit-on faire, que doit faire un élève s'il est victime ou témoin de harcèlement ? Comment sortir de cette spirale infernale ?
Tout simplement en parler. Alors je dis tout simplement, c'est très difficile, bien évidemment,
de faire cette démarche.
Pour la victime, déjà, parce que généralement, elle a honte de se retrouver dans cette situation. Elle peut avoir peur de représailles, car les harceleurs vont systématiquement faire croire à la victime que la pire chose qui puisse lui arriver, c'est justement d'en parler. Alors que c'est la seule solution, qu'elle en parle à ses parents, aux professeurs ou éducateurs en qui elle a confiance, au centre justement PMS ou n'importe quel partenaire de la plateforme CASH. Donc ça, c'est très important, pouvoir toujours en parler. Et même en tant que témoin, c'est-à-dire que...
Le fait de pouvoir... Il y a aussi cette loi du silence des jeunes témoins de ces scènes-là qui n'osent pas s'exprimer également.
Un témoin peut très bien penser à tort. Si je parle, c'est moi la balance, la poucave. Mmh. Et donc, du coup, on va s'en prendre à moi. Mmh. Et donc, beaucoup, malheureusement... se taisent et ferment les yeux par rapport à ce qu'il se passe.
Alors en général, d'où vous viennent les signalements ? Qui signale les cas de harcèlement ?
Alors on peut être mandaté par tout type de personne. Ça peut être par la victime elle-même, forcément. Ça peut être un témoin, un spectateur qui s'inquiète pour la victime. Ça peut être n'importe quel membre du personnel d'une école, un éducateur, un professeur, une direction, une sous-direction. Ça peut être également venant de la famille, c'est-à-dire les parents eux-mêmes ou un membre de la fratrie. Mais ça peut être aussi parfois quelque chose qui sort complètement justement de l'environnement, on va dire, principal du jeune. J'ai d'ailleurs une petite anecdote à vous partager si vous le souhaitez. Une de nos partenaires Cash était tout simplement en train de faire ses courses dans un supermarché et en se rendant à la caisse, elle observe un jeune qui semble venir récupérer un cartable que la caissière avait mis de côté. Donc, elle était un petit peu, ma partenaire, interrogée par rapport justement à cela. Donc, le jeune récupère son cartable, comme si c'était quelque chose de pas inhabituel, quelque chose même de ritualisé, et récupère son cartable et part. Et la partenaire Cash donc, pose la question quand même à la caissière de savoir qu'est-ce qui vient de se dérouler. Et la caissière explique tout simplement que... c'est un jeune qui se fait racketter. Et pour éviter justement de vivre encore davantage de rackets, de se faire dérober certains biens dans son cartable ou dégrader, il vient les cacher. Il vient cacher son cartable à la caissière avec qui il a confiance.
C'est ça.
Et donc, fort de cette information, la partenaire Cash a parlé justement de la plateforme Cash pour que nous puissions retrouver donc le jeune. Donc, comme quoi, en fait, n'importe qui peut signaler, peut mandater la plateforme. Mais à nouveau, le principal, c'est qu'on en parle.
Alors, on parle surtout de harcèlement entre élèves depuis le début de cette interview, mais le harcèlement peut aussi être provoqué par un adulte, un enseignant, un éducateur.
Malheureusement, oui. Donc, le harcèlement n'est pas le propre que des jeunes. Hein. Ça existe de jeune à jeune, d'adulte à jeune, ou entre les adultes. Donc, malheureusement, ce fléau se retrouve dans toutes les strates de la société.
J'aimerais revenir sur les impacts psychologiques et scolaires du harcèlement sur un enfant ou un adolescent. Vous parliez donc de décrochage scolaire, de baisse d'estime de soi et voire pire.
Donc effectivement, il peut y avoir des états dépressifs, des scarifications, comme j'en parlais tout à l'heure, et jusqu'à des tentatives de suicide. Donc effectivement, c'est un phénomène à prendre très au sérieux, pour lequel il faut absolument répondre et pouvoir proposer une assistance aussi bien aux spectateurs, aux témoins, aux victimes bien entendu, mais également aux auteurs, aux harceleurs, afin d'éviter la récidive et de pouvoir les sensibiliser sur qu'est-ce qui se provoque réellement.
Être harcelé peut avoir des conséquences sur sa vie d'adulte également. On parle d'un stress post-traumatique dans ces cas-là ?
Dans certains cas, oui, effectivement. Mm-hmm. Lorsque le harcèlement a été particulièrement loin, lorsque la victime a été particulièrement fragilisée par rapport à tout ce qui a pu se faire, si le harcèlement a duré particulièrement longtemps, qu'il ne s'est pas déroulé simplement que pendant une année scolaire, ou parfois des jeunes le traversent pendant tout leur secondaire, parfois même continuent pendant les études supérieures, peuvent même se dérouler au début du travail, dans leur début de vie de jeune adulte, dans leur vie professionnelle. Il est déjà arrivé malheureusement que cela se poursuive avec d'autres formes. Donc ça peut avoir des impacts sur la confiance que l'on porte à la société de manière générale.
Bien sûr. Et que pouvez-vous concrètement proposer aux victimes pour les aider à se reconstruire et aux auteurs pour les conscientiser ?
Déjà pouvoir parler avec eux, déjà de pouvoir leur permettre à eux d'exprimer leur ressenti, le pourquoi, pour pouvoir avec eux proposer justement des pistes d'action. Forcément, le travail est différent entre un auteur ou une victime, mais ça commence toujours par discuter avec eux, pour pouvoir essayer de comprendre pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi ils font de telles choses à d'autres. Et parfois, justement, en grattant, on se rend compte que ça n'est pas simplement que une étiquette de « j'ai envie de créer le chaos, j'ai envie de déranger ». Eux-mêmes, parfois, les auteurs sont eux-mêmes justement fragilisés par rapport à des anciens vécus.
Et quelles sont les différentes étapes? Il y a déjà un entretien individuel, j'imagine, avec chacun. Vous faites une confrontation également?
Alors, ma part, personnellement, moi, je ne cherche pas à faire de confrontation. Mm-hmm. Moi, je travaille avec celui qui m'a mandaté, donc c'est-à-dire que ça soit la victime ou le harceleur.
Ça arrive également qu'un harceleur rende compte.
Bien évidemment, c'est déjà arrivé. Mm-hmm. Parfois, c'est des harceleurs qui ont été embrigadés par d'autres, se rendent compte après, au moment où ils le vivent, que ça va trop loin, qu'au début c'était drôle, selon eux, alors que la victime n'en rit jamais, ou peuvent parfois avoir juste un sourire nerveux, mais c'est plus une réaction. Moi, je ne confronte jamais, en tout cas, victime et auteur. J'essaye en tout cas de pouvoir écouter la parole du jeune et pour pouvoir proposer des pistes d'action concrètes afin de mettre fin au harcèlement.
Est-ce que vous impliquez les familles et l'équipe éducative lorsqu'il s'agit de harcèlement scolaire?
Lorsque le jeune me le permet, puisque je suis tenu au secret professionnel. Et tant que le jeune mineur n'est pas dans une situation de danger, je dois pouvoir respecter ce secret professionnel. Si le jeune est, lui, par contre, en danger, là, je suis dans l'obligation de le lever et de prendre contact avec les parents ou les responsables légaux.
Et d'après votre expérience, est-ce que les professionnels de l'éducation sont assez formés et outillés, justement, pour gérer ce cas de figure de manière adéquate?
Alors, je ne vais pas commencer à critiquer le programme de l'éducation et la formation, en tout cas concernant les futurs enseignants, ceux de demain. Mais c'est la raison pour laquelle, justement, avec notre plateforme CASH, on se rend justement dans différents organismes, dont la HEH de Tournai, où on essaie justement de sensibiliser les futurs enseignants à ce phénomène. Comment le détecter et comment justement pouvoir être vigilant à ça et agir en conséquence.
Donc, pour contrer ce fléau, différentes associations moucronoises ont uni leurs forces et compétences pour créer la plateforme CASH, donc, qui signifie c'est l'acronyme de Cellule d'Action Solidaire contre le Harcèlement. Comment cette plateforme a-t-elle vu le jour?
Alors, c'est suite à une situation qui s'est déroulée dans une école secondaire moucronoise, dont je tairai le nom bien entendu, en 2014, où il y a eu une grosse situation de harcèlement majeur au sein de cet établissement. Certains services, dont le planning familial, la passerelle, le service de médiation scolaire, sont intervenus par rapport en fait à cette situation, et ils ont vite remarqué qu'il n'y avait pas de structure existante à Moucron, qu'il n'y avait pas de réseau propre justement autour de cette thématique. Et donc, il y a eu effectivement ce souhait, en tout cas, de pouvoir se réunir, différents organismes, différents centres, différents services moucronois, autour de ce fléau, pour pouvoir le contrer au mieux. Et donc, en 2015, avec l'initiative de plusieurs instances, mais je tiens à le saluer, Christophe Bourgois, de la médiation scolaire, ancien partenaire justement de la plateforme CASH, il y a eu effectivement le souhait de réfléchir. Alors d'abord, on s'est retrouvés tous autour de la table, le pôle psychosocial de la police, le pôle égalité des chances, les différences entre PMS, ordinaire, spécialisé, tout réseau confondu, l'AMO, le déclic, et le planning familial, la passerelle, et comme je vous ai dit à l'époque, le service de médiation scolaire. On s'est tous réunis autour de la table pour, dans un premier temps, apprendre à se connaître, connaître les limites et missions de chacun.
C'est ça.
Quel service peut faire quoi? Est-ce qu'on peut faire de la prévention? Est-ce qu'on peut faire de l'intervention? Donc d'abord, bien se connaître pour pouvoir répondre et s'articuler au mieux. On a par la suite créé une convention justement qui nous lie tous justement par rapport à toutes nos actions. Par la suite, quelques années plus tard, un autre service nous a rejoint, le service de prévention de la ville. Et donc on se réunit à hauteur de une fois par mois, pour pouvoir justement réfléchir à différentes actions que l'on propose au sein des écoles primaires comme secondaires.
Et justement, quelles sont ces actions préventives qui sont mises en place par la plateforme?
Alors, il y a plusieurs actions, je ne vais pas forcément tous les dénombrer, je vais essayer de pouvoir juste vous signifier, en tout cas, à mon sens, les plus importantes. Donc, une campagne de sensibilisation à travers des flyers, des affiches, des animations que l'on propose justement dans toutes les classes de premier degré, donc les deux premières de secondaire, dans toutes les écoles secondaires, tout réseau confondu. On collabore également avec le Théâtre du Copion, qui fait du théâtre d'action,
oui,
pour sensibiliser les jeunes, parfois justement avec même des jeunes fin fondamentale ou même des plus grands. On a déjà fait également des sensibilisations auprès des gardiens de la paix par rapport justement au harcèlement de rue.
Ah d'accord, oui.
Également,
si vous sentez moins de scènes, comment réagir
Tout à fait. Mm-hmm. Des sensibilisations également auprès des ATL, donc c'est-à-dire les responsables en crèche ou en garderie. Là, on a créé également une cachothèque, c'est-à-dire une farde qui reprend toute une série de fiches outils à la destination des professeurs du fondamental. On a créé un site internet, bien évidemment, où on reprend justement tous ces outils. Donc, c'est-à-dire on ne les garde pas jalousement, au contraire,
oui,
on essaye justement de les partager.
Mm-hmm.
On a créé également un outil qui a servi à plusieurs écoles secondaires, un outil que l'on a nommé « Sors de ta cache », c'est-à-dire une exposition vivante où en fait on fait vivre aux adolescents une journée accélérée de harcèlement scolaire dans différents lieux de vie avec des comédiens,
d'accord,
afin qu'ils puissent vivre et assister à ce phénomène. On a une fausse victime, quelqu'un qui est présenté comme une victime, et les élèves en fait l'identifient bien comme victime, avec des spectateurs qui sont également joués, des harceleurs qui sont en surnombre par rapport à la victime, pour justement pouvoir réfléchir avec eux sur qu'est-ce que ça a généré comme émotion, comment ils ont pu réagir par rapport à ça. Est-ce qu'ils se sont servis des mêmes armes que les harceleurs?
C'est ça.
Ou est-ce qu'au contraire, ils ont essayé de fonctionner plus avec une solidarité, avec une défense, essayer de pouvoir interpeller un éducateur qui était également un comédien? On partait du principe que pouvoir proposer une animation, le jeune reste passif.
Oui.
Là, il est acteur.
Mmh.
Et donc, du coup, automatiquement, ça génère plus d'émotions.
Ils
sont plus impliqués. Et automatiquement, ça a un impact beaucoup plus grand au niveau de la mémoire. Donc ça a été vraiment quelque chose qui a été beaucoup travaillé, qui a bien marché. Et là, pour l'instant, on est en train de réfléchir à changer cet outil et de proposer, toujours avec quelque chose de très vivant, avec les élèves, mais un nouvel outil qui s'appellerait Cash Game et qui partirait plus dans un esprit d'escape game,
oui,
mais autour de la thématique justement du harcèlement.
Autre source de préoccupation également avec l'émergence des réseaux sociaux et l'accès précoce aux smartphones, c'est le harcèlement qui dépasse désormais les frontières physiques de l'école. Le cyberharcèlement entre dans l'intimité du jeune. Il reste l'un des défis, j'imagine, majeurs pour les écoles. Que faire face à cela? Est-ce qu'il y a des pistes concrètes justement pour contrer cela?
Alors ça, c'est très difficile, puisqu'en fait, une victime de cyberharcèlement, il peut très bien se faire harceler à l'école et cet harcèlement se poursuit à la maison, au domicile, alors qu'il est censé être justement en sécurité et en protection. Donc, c'est-à-dire qu'un jeune de maintenant peut être harcelé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce harcèlement peut sans cesse se poursuivre. Pour beaucoup de jeunes, malheureusement, le simple fait d'être derrière son écran, derrière un clavier, leur donne parfois, à tort, plus de légitimité à pouvoir déverser de la haine ou de la moquerie par rapport à la victime.
Il y a une distance, c'est plus facile.
C'est beaucoup plus facile pour eux, dans leur perception, bien sûr.
Oui, entre guillemets.
C'est comme s'ils étaient moins touchables, comme si on n'allait pas forcément remonter jusqu'à eux à travers un pseudo, à travers quelques lignes sur certains blogs ou réseaux sociaux. Alors que si, il y a forcément toujours des adresses IP, on peut toujours bien évidemment remonter jusqu'à l'auteur.
Et que faire face à ça?
Je répondrai exactement la même chose, de pouvoir en parler. C'est-à-dire que tant que la victime n'en parle à personne, que ça soit sa fratrie, ses parents, ses amis ou tout professionnel qui gravite autour de lui, on ne peut pas forcément le savoir. Si en plus les signaux dont je vous ai parlé tout à l'heure ne sont pas suffisamment en tout cas prononcés, on pourrait dire c'est peut-être un jeune un peu introverti, il ne s'exprime pas beaucoup en public, et donc c'est sa nature, peut-être qu'il y a autre chose derrière. Donc vraiment le meilleur conseil que je puisse donner, c'est toujours de pouvoir en parler à une personne avec qui on se sent en confiance, avec qui on se sent bien.
En France, la commission parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs propose d'interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans et de mettre en place un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans. Est-ce que ce serait un début de solution, de piste?
À mon sens, non.
Oui.
À mon sens, non. Il y a un moment, il faut qu'on soit réaliste,
oui,
et qu'on soit en adéquation avec notre société. On vit maintenant à travers des écrans en permanence, que ça soit les jeunes comme les adultes. Je vous invite à regarder une fois votre téléphone pour voir combien de temps vous passez sur la journée. Je pense que parfois, on pourrait être vraiment impressionné. Donc, je comprends en tout cas l'intérêt ou la volonté en tout cas de pouvoir mettre un cadre, des limites, des barrières. Mais
il y a les pseudos, on en parlait tout à l'heure.
Tout à fait. Maintenant, nous avons été tous deux jeunes avant eux. Et on sait très bien que parfois, les interdits pour un jeune, on aime parfois flirter avec l'interdit ou pouvoir le contourner. Donc, je ne pense pas que ça soit la solution. Je pense que l'une des solutions, en tout cas, c'est de faire de la sensibilisation, justement, pour pouvoir toucher le plus grand nombre, pour que, avec les réseaux, avec les écrans, sans que je les diabolise, on puisse en faire de belles choses.
Là, on parle de la France, mais le harcèlement gangrène évidemment depuis longtemps les écoles belges. La médiatisation du phénomène, le travail de lobby de certaines associations de terrain et de certaines écoles ont eu raison d'une ignorance politique. En 2023, la Fédération Wallonie-Bruxelles adoptait enfin un décret climat scolaire et a créé l'Observatoire du climat scolaire. Est-ce que vous savez ce que cela donnait concrètement ?
Alors là, honnêtement, je préfère vous dire que je ne saurais pas vous répondre par rapport à ça. Mais ce que je peux en tout cas vous dire, c'est que les politiques, enfin, commencent à ouvrir les yeux par rapport à ce phénomène. On a la chance, nous, en tout cas, dans la politique locale moucronoise, qu'on a beaucoup, en tout cas, d'aide par rapport à ça. Hein, le service pour l'égalité des chances, soutenu justement par rapport à ça, nous permet justement de pouvoir faire certaines actions. Donc ça, c'est notre chance. Maintenant, il est quand même malheureux de se réveiller un petit peu tardivement.
Ah, clairement.
Je trouve.
Depuis la rentrée scolaire 2024, les écoles sont tenues de mettre en place une procédure de signalement claire et accessible, inscrite dans leur règlement intérieur. 2024, ça paraît... c'était hier, quoi.
Alors, mieux vaut tard que jamais,
oui,
ça c'est certain.
Ça, ouais.
C'est une bonne chose. Mais effectivement, c'est tardif, puisque le harcèlement a malheureusement toujours existé. On a l'impression maintenant qu'on en entend plus facilement parler, mais justement, peut-être à travers les réseaux sociaux, on en parle plus facilement et on a beaucoup plus de médias qui traitent du sujet. Mais c'est un fléau très ancien.
Bien sûr.
On a la chance aussi qu'au niveau également de l'espace culturel, on a de plus en plus de pièces de théâtre qui traitent du sujet, de films, de séries.
Qui ose enfin.
Et effectivement, qui parle effectivement de ce phénomène pour pouvoir à nouveau sensibiliser le plus grand public.
Les harceleurs, même mineurs, doivent-ils craindre des sanctions et de quel ordre ?
Alors, dans la sphère scolaire, ça peut aller de la punition, de la retenue,
à l'exclusion,
jusqu'à l'exclusion temporaire ou l'exclusion définitive. Il peut également y avoir des conséquences au niveau législatif, c'est-à-dire que dès l'instant où il y a une plainte qui a été déposée, celle-ci suit son chemin, et il peut y avoir effectivement des sanctions d'ordre pénal. On pense même jusqu'à des situations où il pourrait y avoir même de l'emprisonnement. Tout dépend maintenant de la gravité des actes et de leurs conséquences.
Sans évidemment nommer ni la victime ni l'agresseur, y a-t-il un cas de harcèlement qui vous a touché en particulier ?
Alors, j'en ai pas un spécifiquement en tête, puisque chaque situation de harcèlement pour laquelle j'ai dû intervenir, j'y ai toujours découvert de la détresse, du désespoir, l'impression que le jeune n'est pas aidé, que le jeune est seul, parfois depuis très très longtemps, avant qu'il ait enfin osé pouvoir interpeller l'un de nos services. Donc, je dirais que toutes les situations de harcèlement m'ont touché personnellement. J'en ai pas une, en tout cas, qui sort du lot et qui écrase toutes les autres. Je voudrais pas faire la même chose que les auteurs.
Je vous remercie, en tout cas, pour cette interview. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Voilà. Il n'y a pas péril en la demi-heure, c'est terminé. On se donne rendez-vous dans un mois, le vendredi 17 octobre, entre 13h et 13h30, sur RQC. Et sinon, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de RQC et celui du Centre culturel de Moucron. www.centrecultureldemoucron.be, ainsi que sur les plateformes d'écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.
And I'm feeling good. Fish in the sea.
It's a new day. It's a new day.